Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Docteur Benjamin Davido, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, que vous dites ce que vous pensez d'une manière franche et directe. Nous allons faire le point sur l'épidémie, les variants, les vaccins, notamment AstraZeneca, parce que beaucoup de questions sont posées. 22 501 nouveaux cas, 271 morts ces dernières 24 heures, 3394 personnes en réanimation, légère baisse des hospitalisation, légère hausse en réanimation. Benjamin Davido, où en est l'épidémie? Est-ce que la situation est globalement maîtrisée?
Et puis on pourrait ajouter 1 million de personnes qui a reçu la deuxième dose du vaccin.
Oui.
L'épidémie, on est toujours sur une ligne de crête. Et en fait, on a une situation qui est extrêmement difficile, extrêmement tendue, parce qu'en fait, à l'hôpital, on ne voit pas le bout du tunnel. Un malade sort, un malade rentre. Et la réalité, c'est que malheureusement, tout pourrait basculer. Et qu'il faut probablement anticiper les 6 prochaines semaines. Pourquoi ? Parce que c'est la période automno-hivernale, la période des maladies respiratoires infectieuses, et qu'on peut espérer, on ne sait pas s'il y a un caractère de saisonnalité, qu'à la fin du mois de mars, début avril, on aura peut-être avec le printemps une diminution des cas, sous réserve que les variants ne jouent pas des tours.
Alors justement, ne pas relever les contraintes trop tôt, dit le gouvernement, l'isolement des personnes positives passe de 7 à 10 jours, c'est bien ?
Oui, c'est une excellente mesure. Moi-même, je l'avais défendue parce que, très clairement, on sait qu'on était passé à 7 jours pour des raisons d'abord d'incitation à l'isolement. À l'époque, on avait des difficultés pour tester massivement. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a ce chiffre globalement de à peu près 5% des gens qui peuvent continuer à transmettre entre le 7e et le 10e jour. Et donc, c'est une sécurité supplémentaire parce qu'on n'a pas le temps d'avoir un diagnostic a posteriori de séquençage pour dire aux gens, on va isoler que les gens qui ont le variant. Et donc, c'est un principe de précaution qu'on applique à tout le monde.
Alors, ces variants, justement, progressent. On le sait, hier, le ministre de la Santé a donné des chiffres. 34%, je crois, de variants anglais en France et 5% d'autres variants. Il y a le variant brésilien, sud-africain. Maintenant, il y a un nouveau variant écossais, le californien.
Enfin, ça nous donne envie de voyager, tout ça.
Oui, ça donne. Oui, d'accord. Oui, non, mais d'accord. Pour aller attraper des variants, je ne suis pas certain. Mais de toute façon, c'est impossible. Alors, est-ce qu'ils sont si dangereux que cela, ces variants? Oui ou non?
Alors, en vrai, d'abord, il faut différencier le variant anglais des autres variants. Pourquoi? Parce que le variant anglais, on est quasi certain qu'il n'y a aucun impact sur la vaccination en tant que telle. S'il y a un impact, c'est de l'ordre de 5%, ce n'est pas significatif. En revanche, pour les autres variants, il y a plus d'incertitudes. On a l'impression que ça met à mal l'efficacité vaccinale. Et donc, on se retrouve dans une situation qui est délicate pour des vaccins qui n'ont pas 95% d'efficacité. Et puis, comme vous l'avez cité, il y a d'autres variants, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le virus a un coup d'avance, et donc aujourd'hui, on ne peut pas répondre à la question de l'efficacité vaccinale. Et puis, comme vous le savez, ces variants, on a l'impression, sous réserve des données de l'étranger, où la politique sanitaire n'est pas la même. Il faut rappeler la singularité de la politique française, où finalement, on n'a jamais été déconfiné. Pourquoi ? Parce que le couvre-feu, c'est un confinement horaire. Et que la propagation des variants, où notamment on a dit qu'avec le variant anglais, on allait dans le mur parce qu'il y avait une augmentation de la contamination, elle s'est faite dans un pays qui est radicalement différent. Et on a l'impression que même si la contamination est supérieure, eh bien elle est moindre. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une contamination supérieure. Parce qu'en fait, cette mutation sur la protéine d'amarrage fait que le virus va mieux s'accrocher à la cellule. C'est comme si vous retiriez une clé USB. Quand vous retirez une clé USB, que vous n'avez pas fini de copier, eh bien ça marche moins bien. Si vous la laissez jusqu'à la fin de l'opération, ça marche mieux et donc il y a plus de contamination.
Bien, Benjamin Davido, donc les variants, il y a des clusters avec ces variants justement, Dunkerque, le Nord, la Moselle, les Alpes-Maritimes, la région de Nice surtout, 72% des cas de variants britanniques, j'ai vu à Dunkerque, de variants anglais. Benjamin Davido, on va parler de la vaccination, mais des décisions prises, le gouvernement a pris des décisions. D'abord, première décision, on ne touche pas on ne reconfine pas, on ne touche pas le soir aux horaires où nous sommes obligés de rentrer chez nous. C'est bien de ne pas y toucher.
Alors moi, j'aurais...
C'est une bonne décision.
Moi, j'aurais souhaité que le couvre-feu soit à 19h. Pourquoi ? Parce que dans les grandes agglomérations, on voit bien qu'il n'y a pas d'étalement possible de la circulation et qu'on se retrouve finalement, en réalité, à avoir un couvre-feu qui serait probablement plus effectif à la fois sur un plan économique s'il était placé à 19h. En revanche, le fait qu'on ne change pas la stratégie actuelle, ça me semble légitime. Il y a une véritable question qui se pose alors qu'il y a les vacances scolaires, de ce chassé-croissé, de ce brassage des populations. Moi, j'avais,
vous craignez.
Je crains ça. Moi-même, j'avais, entre guillemets, milité pour limiter les déplacements entre les régions. Parce que, d'abord, c'est pas une vue de l'esprit, indépendamment du confinement qui avait permis de limiter les déplacements. C'est que l'Italie, qui l'a appliqué en janvier, lorsqu'il y a eu une recrudescence des épidémies, a bloqué la transmission entre les régions. Et comme vous le savez, aujourd'hui, en Italie, maintenant, il y a plus différentes zones, parce que justement, ça va mieux, parce que ce blocage entre les régions a permis de diminuer l'épidémie.
Alors, justement, vous êtes favorable à des reconfinements régionaux, locaux, ou pas?
Moi, je pense que c'est pas une bonne stratégie. Pourquoi ? Parce que justement, lorsqu'on avait permis ce confinement global en mars dernier, on avait protégé un certain nombre d'endroits qui étaient moins touchés. Aujourd'hui, si on reconfine localement, on va se retrouver avec un effet tache d'huile et ça va être extrêmement compliqué. Et puis des appels d'air dans des régions, ça va mieux. Je pense que ce qu'il faut être capable de faire, typiquement à Nice ou en Moselle, où on a l'impression que ça se passe plus mal qu'ailleurs, où l'incidence est très importante, c'est de faire des transferts comme on a fait pendant la première vague.
Transfert de patients, de malades.
Voilà, dans les zones justement qui sont les moins impactées. Et c'est pour ça qu'il faut se féliciter qu'il y a des zones où ça va un petit peu mieux et qu'il ne faut pas lever, j'ai envie de dire, toutes les restrictions là-bas, parce qu'on va se retrouver avec un arroseur arrosé, alors qu'on a besoin de ces zones protégées pour aider ceux qui sont en situation les plus compliquée.
Oui, j'imagine, j'habite dans une zone où ça va bien, on lève toutes les contraintes, là ça va exploser, ça risque d'exploser.
Exactement.
Et à ce moment, comporter tout à coup différemment.
Et à ce moment-là, il faudra tout reconfiner, et donc on aura perdu notre pari.
Oui, je comprends. Pas de décision avant le 8 mars, dit le gouvernement. C'est sage ou c'est risqué?
On se retrouve avec la question, ça veut dire qu'il n'y aura probablement pas de nouvelles mesures annoncées avec les vacances, et ça veut dire que, globalement, il va falloir attendre patiemment, et on espère, je suis convaincu que les Français font beaucoup d'efforts face au virus, parce que maintenant tout le monde a compris que la maladie était là.
Les températures, vous avez vu les températures?
Oui,
ce
alors.
Week-end, par exemple, il va faire 19 degrés à Paris, il va faire plus de 20 degrés sur la Côte d'Azur, et au Pays Basque, ou ailleurs.
Eh bien, c'est une vraie question qui est, encore une fois, est-ce que le changement des comportements, lorsqu'il va faire plus chaud, est-ce qu'il y a une saisonnalité qui fait que l'épidémie va être contrôlée, et ça, c'est à nos collègues épidémiologistes de nous dire, de pouvoir surveiller. On a beaucoup parlé des variations de température qui pouvaient jouer un rôle sur la transmission du virus. La réalité, c'est que plus il fait froid, plus vous vivez en intérieur, plus vous êtes confiné et plus vous contaminez. Et vous savez aussi bien que moi, M. Bourdin, que 30% des contaminations se font dans le milieu intrafamilial ou avec les amis. Et donc, on espère que cette saisonnalité favorable, si elle dure, va permettre de voir d'observer une diminution des cas.
Oui, on va rappeler, et vous le rappelez à juste raison, la transmission se fait en famille ou avec les amis.
C'est ça.
Avant tout.
Absolument.
Avant les transports en commun, avant le travail, avant tout.
Mais pourquoi? Parce que lorsqu'on est à la maison, lorsqu'on est avec des amis, on n'a souvent pas le masque, on ne fait pas attention, qu'on a confiance parce qu'on est avec des gens qu'on connaît. Lorsque vous êtes dans les transports, vous faites extrêmement attention parce qu'on a souvent peur de l'autre, ce qui est un bon réflexe. Mmh. Et donc, on se protège. Que lorsqu'on va baisser la garde, bien lui, le virus ne baisse pas la garde.
C'est une casserole de lait sur le feu. C'est ce que dit l'un des nouveaux membres du conseil scientifique, ce virus. On en est là, hein.
Oui, alors, c'est une casserole de lait sur le feu sur laquelle on n'a jamais éteint le feu parce qu'en fait, ça dure dans la durée. Très clairement, au-delà des allégories, je crois que si on voulait et des métaphores, je crois qu'on est un peu comme la conquête sur Mars. C'est-à-dire que le mot-clé, c'est la persévérance. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'inscrive dans la durée et qu'on y arrive. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Il faut qu'on arrive à avoir à la fois une diminution des contaminations pour pouvoir vacciner efficacement. Parce que lorsque vous vaccinez chaque année pour la grippe, si vous faites vacciner...
On va reparler des vaccins.
En octobre, on vous propose le vaccin lorsque ça va bien. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de monter en puissance sur cette vaccination.
Oui, Benjamin Davido, l'épidémiologiste suisse Didier Pitté, dit l'épidémie ne sera pas maîtrisée avant l'été 2022. Est-ce que vous pensez qu'elle va durer, cette épidémie?
Alors moi, vous savez, c'est un scoop pour personne. J'avais annoncé fin de la pandémie 2024. Et on m'avait regardé en disant, oh là là, vous êtes très pessimiste, docteur Davido. J'avais dit, ça prend extrêmement beaucoup de temps, extrêmement long, extrêmement complexe de faire une campagne de vaccination sur un pays, sur le monde. Parce que là, ce qu'on a perdu aujourd'hui, c'est quand même la fermeture des frontières. On sourit parce qu'il y a ces différents variants, mais on voit bien que ces variants, ils arrivent de nulle part, alors même qu'ils vont frapper le Grand Est de la Californie. On n'a pas de frontière avec la Californie. Mmh. Il y a quelque chose d'extrêmement complexe. L'objectif, c'est au moins 15-20 millions de personnes vaccinées, c'est-à-dire les plus fragiles, les plus vulnérables au virus, pour avoir un vent de mieux. Vous imaginez le temps que ça va prendre.
Ça veut dire que la fin de cette épidémie pourrait être sans cesse repoussée à cause des variants?
Alors ça, c'est en effet une possibilité. Moi, je suis quelqu'un d'optimisme, mais pas naïf. C'est-à-dire qu'on sera capable de faire ce qu'on fait pour la grippe, c'est-à-dire faire des vaccins multivalents. C'est-à-dire qu'on va mettre plusieurs variants au sein d'un vaccin. Oui. On sait que ces vaccins technologiques nous permettent justement d'avoir un coup d'avance en modifiant et en mettant plusieurs variants au sein d'une vaccination. Et donc, c'est pour ça que la première question, vous avez raison, M. Bourdin, c'est de répondre. Et il faut exiger des laboratoires pharmaceutiques de savoir, oui ou non, est-ce qu'il y a une stratégie vaccinale, caricaturalement l'ARN, les vecteurs viraux ou les autres, qui sont plus efficaces face à ces variants, parce que la réalité, c'est qu'on joue à se faire peur.
Je vais revenir sur la stratégie vaccinale, mais les présidents de région et les maires des grandes villes demandent de la réouverture de tous les établissements culturels. Est-ce que c'est raisonnable ? Franchement.
Moi, je pense que toutes ces solutions qui visent à faire comme si le virus n'était pas là et à tout rouvrir comme si de rien n'était ne sont pas raisonnables dans la situation actuelle. Et je pense que les collègues qui nous entendent, qui sont à Nice, qui sont en Moselle, seront d'accord avec ça.
Oui. Certains, d'ailleurs, de ces élus demandaient un reconfinement il y a quelques semaines.
Vous avez tout à fait raison.
Strict, hein, je ne l'oublie pas. Les festivals, 5000 spectateurs maximum en format assis l'été prochain, c'est une solution qui vous paraît acceptable ?
Alors, je pense que c'est une solution qui, je l'espère, pourrait se réaliser à cet instant-là. C'est une bonne projection d'abord de se mettre à l'été. Pourquoi ? Pour les raisons qu'on a évoquées, c'est qu'on peut espérer qu'on se retrouve le vent dans le dos comme l'été dernier, avec une baisse significative des contaminations et que, comme on vive à l'extérieur, il y a une moindre contamination due au variant. Moi-même, j'organise le tournoi de Roland-Garros sur le plan logistique face au Covid et va se poser dans les semaines qui viennent des questions face au tournoi qui a lieu Porte d'Auteuil au mois de mai. Vous vous rappelez l'an dernier qu'on l'avait déplacé en octobre.
Allez-vous faire ? Il aura lieu d'abord ?
Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va discuter ce week-end. Je l'espère, je pense. On va faire en sorte pour que ça se passe, justement. Et
donc,
on va voir
cette même chose. Roland-Garros aura lieu.
Normalement, on va vous le confirmer dans les semaines. Je vous le dirai si je suis réinvité.
Oui, non, mais d'accord.
On va justement discuter ce week-end de l'organisation de Roland-Garros, pour ne rien vous cacher. Oui. Et très clairement, donc, on est sur cette même stratégie qui est qu'il faut trouver la bonne saisonnalité et qu'aussi, on a des objectifs.
Alors, au mois de mai, comment pourrait se dérouler Roland-Garros?
Eh bien, je l'espère, avec une jauge, justement, d'au moins 5000 personnes.
Oui.
Et encore une fois, ça dépendra de la situation actuelle. L'an dernier, ça avait été extrêmement difficile. Ça avait été un jeu d'équilibriste, puisqu'on l'avait fait en octobre, qui n'avait pas de public. Et on a bien vu que l'Open d'Australie, c'était très compliqué, qui s'est déroulé la semaine passée.
Fin janvier, Jean-François Delfraissy plaidait pour un reconfinement rapide. Aujourd'hui, Jean-François Delfraissy et d'autres membres du Conseil scientifique jugent qu'il faut opter pour un contrat social entre générations. D'ailleurs, il en avait déjà parlé au printemps dernier. Les plus âgés et fragiles accepteraient de s'auto-isoler. C'est une solution.
Je vous réponds, les plus fragiles sont déjà isolés. C'est ça la réalité. Donc, d'abord, c'est stigmatiser les populations, c'est extrêmement compliqué et c'est méconnaître les chaînes de transmission. Parce que vous-même, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous savez qu'on se croise dans les populations, on se croise par les différentes générations au travail. Et donc, c'est, à mon avis, quelque chose qui n'est pas valable sur la durée, qui peut aider sur une courte période, mais qui est déjà appliqué dans les faits.
Voilà. Et vous dites, puisqu'on parle des générations les plus âgées, on va parler des jeunes, et vous dites, je ne comprends pas pourquoi on n'utilise pas plus le téléphone portable.
Alors vous avez tout à fait raison, parce qu'on confond deux choses. On confond l'application Stop Covid, qui est une application qui a été créée, qui fait du balisage sur une durée pendant un temps, qui se désactive, et des outils de notification, comme dans votre téléphone quand vous recevez un SMS, vous ne téléchargez pas une application, c'est automatique. Il y a des systèmes qui existent déjà si vous avez un smartphone et qui sont déjà actifs, il n'y a rien besoin de faire, on peut quitter le plateau, on peut cliquer, et quand vous cliquez dessus, vous ferez l'essai, on vous dit ce n'est pas valable en France, pour des décisions qu'on a beaucoup dit comme étant liberticides. Sauf que la réalité, moi je n'y crois pas, d'abord 99% des jeunes de moins de 25 ans ont un smartphone, et que la réalité c'est que tous ces mêmes jeunes aujourd'hui qui souffrent énormément de la crise sont les mêmes qui sont les premiers acteurs sur les réseaux sociaux, et surtout on ne leur a pas demandé leurs avis, c'est-à-dire qu'eux ils sont proactifs et qu'ils ont un rôle à jouer. Aujourd'hui on pourrait faire de la triangulation, c'est-à-dire être capable avec l'intelligence artificielle, avec nos téléphones portables, de savoir précisément sur la carte de France, avec cette situation des variants, où vont s'allumer les prochains cas. Apple travaille déjà sur une prochaine montre connectée qui sera capable de vous dire 48 heures avant si votre PCR va être positif, en fonction de vos signes, bien sûr. Et que c'est ça l'avenir. On est face. On est au 21e siècle. On nous dit.
On n'utilise pas suffisamment les outils qu'on a à disposition.
Mais surtout, on est au 21e
siècle.
Mais surtout, on est au 21e siècle. C'est ce qu'on utilise quotidiennement. C'est ce qu'utilise l'armée. On vient d'atterrir sur Mars. Je ne sais pas comment il faut dire.
Oui.
Très clairement, on a un vaccin ARN messager. Pasteur, qu'aurait dit Pasteur d'un vaccin ARN messager, je vous le dis. Il aurait dit pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Et en revanche, le téléphone portable qu'on a dans notre poche, no comment, pas le droit d'utiliser, interdit, c'est liberticide. Moi, je ne crois pas que se faire peur toutes les semaines, et notamment pour les jeunes, avoir un reconfinement...
Comment pourrait-on l'utiliser
un reconfinement comme une épée Damoclès, ce n'est pas jouer à se faire peur, et que ça, ce n'est pas liberticide.
Alors, comment pourrait-on l'utiliser, ce smartphone ?
Eh bien, il faut d'abord que ça passe, je suppose, au Sénat, à l'Assemblée, qu'on décide...
Concrètement, pratiquement.
Mais concrètement, en fait, vous avez un système comme une notification quand vous recevez un SMS. Lorsque vous avez, sur une certaine zone, vous avez de la triangulation, vous allez savoir que dans une zone, par exemple, il y a plus de cas, il y a plus de variants, ça va s'allumer.
En fonction de mes déplacements.
Absolument.
Et de mes rencontres.
Absolument. L'ordinateur, votre téléphone va calculer, va anticiper que sur une zone, il y a une forte densité, il y a une augmentation. On parle de cette augmentation de la transmission des variants. Et que potentiellement, il y a une zone qui est à risque sur laquelle il pourrait être intéressant, par exemple, de faire un dépistage de masse. Ce genre de choses. Et donc aujourd'hui, dans le fameux triptyque testé, tracé, isolé, je suis désolé, on a renforcé l'isolement, mais le traçage est néant. Et pourquoi il est néant ? C'est pas qu'on ne veut pas le faire, c'est qu'on ne peut pas mécaniquement, humainement, tracer à plus de 5000 personnes par jour. Et la réalité, vous conviendrez, c'est que ça fait plusieurs mois qu'on est à plus de 20 000 contaminations par jour.
Benjamin Davido, les vaccinations, est-ce qu'il y a une vraie stratégie dans la vaccination ? Parce que nous avons deux vaccins ARN messager, qui sont Pfizer et Moderna, et nous avons AstraZeneca maintenant qui va être injecté par les pharmaciens d'ailleurs, rapidement, et bientôt nous aurons Johnson & Johnson, qui est un peu comme AstraZeneca, mais est-ce qu'on a une vraie stratégie vaccinale ? Parce que je comprends pas.
Alors moi, je veux dire, moi, je déplore quelque chose. Je déplore d'abord que les soignants qui sont au combat et qui sont des forces vives nécessaires, parce qu'on soigne les malades, doivent faire un choix sur la vaccination. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il n'y ait pas de choix pour une simple et bonne raison.
D'abord, vaccination obligatoire des soignants ?
Alors, personnellement, moi, je serais pour. Je sais que ce n'est pas réalisable.
Oui.
Et donc, je sais que ça serait extrêmement compliqué parce qu'on se retrouverait avec des départs des soignants et qu'aujourd'hui, on ne peut pas être dans cette situation.
Les soignants sont vaccinés contre d'autres virus.
Je vais vous donner un scoop que vous savez déjà. Le vaccin AstraZeneca a peu ou pas de succès auprès des soignants. Et si demain, la vaccination était obligatoire, on ne sait pas comment est-ce qu'on ferait. Et la réalité, c'est que la vaccination, pour qu'elle soit obligatoire, c'est qu'il faudrait avoir des vaccins et qu'aujourd'hui, on est sur une tension de cette vaccination.
Oui, et la réalité, Benjamin Davido vous l'a soulevé, et c'est qu'AstraZeneca, on n'y croit pas. C'est que malheureusement, il y a beaucoup de patients, j'oublie même les soignants, beaucoup de patients qui préféreraient recevoir Pfizer ou Moderna.
Alors, il faut...
qui estiment que AstraZeneca, qui ont entendu qu'AstraZeneca a protégé moins.
Alors, il faut remettre les choses dans le contexte. D'abord, AstraZeneca est 100% efficace face aux formes graves de la maladie. Et c'est ça qui est important.
Oui.
Globalement, son efficacité moyenne, elle est d'ordre de 70% avec le schéma qui est deux doses, pleine dose. Pour des raisons qui m'échappent, il y a eu une erreur lors de l'essai clinique et on a fait une demi-dose puis une pleine dose et l'efficacité est montée à 90%, mais ce schéma n'a pas été retenu car il n'y avait pas assez de personnes pour pouvoir conclure à une efficacité statistique. Ce qu'on sait, c'est que 70% d'efficacité pour un vaccin, et un vaccin qu'on appelle un vaccin de masse, un vaccin de santé publique, c'est énorme. Parce que le vaccin de la grippe que vous faites chaque année, c'est 40 à 50% d'efficacité.
Ah oui.
Et donc, entre la peste et le choléra, ou plutôt entre ne rien faire et faire, il faut être proactif, il faut se faire vacciner. La problématique, c'est que je pense qu'il ne faut pas laisser le choix aux gens. Et le choix aujourd'hui qui s'opère à l'hôpital n'est pas logique, parce qu'il y a quelques semaines, on a vacciné des administratifs avec le vaccin Pfizer pour des gens qui ne soignent pas. Aujourd'hui, dans les unités Covid et en réanimation, on se retrouve avec un dilemme, avec des jeunes soignants qui se contaminent, qui risquent de se retrouver absents, de poser un problème d'effectif, alors que ces vaccins devraient être vaccinés avec des vaccins ARN messager.
Si je comprends bien, le débat porté sur le nombre de personnes vaccinées, en fait, il y a eu une accélération en France. On a dépassé l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Donc maintenant, le débat n'est plus là. Le débat est sur la stratégie vaccinale, l'utilisation des vaccins pour les uns et les autres.
Absolument.
Parce que le vaccin AstraZeneca sera, encore une fois, injecté en pharmacie. Au mois de mars.
Absolument. Hein,
c'est bien ça.
Ouais, comme le médecin généraliste à partir du 25 février.
Voilà, à partir du 25 février. Mais les gens vont arriver en disant, mais moi je ne veux pas AstraZeneca, je veux Pfizer. Et il va bien falloir là bien communiquer.
Alors absolument, c'est un travail de communication.
Oui.
Mais surtout, au-delà de ça, je pense qu'il y a une stratégie qu'on a probablement ratée qui était de séparer les deux circuits, d'un côté l'ambulatoire et d'un côté l'hôpital. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je pense qu'en fait, il aurait fallu mettre que des vaccins ARN messagers à l'hôpital, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, et de sortir impérativement ce vaccin AstraZeneca qui n'a pas bonne presse auprès des soignants, et de le rendre disponible en ville, parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on se retrouve avec des lots non utilisés à l'hôpital, alors qu'en fait, ces vaccins, qui sont des vaccins qu'on pourrait dire mobiles, parce qu'ils se conservent beaucoup mieux, seraient beaucoup plus utiles pour vacciner les 50-65 ans en ville.
Alors, question que tout le monde se pose, est-ce que si je suis vacciné, je transmets le virus ?
Alors, c'est une question auquel on n'a pas la réponse.
On n'a toujours pas la réponse.
On a des données très encourageantes d'Israël qui a vacciné massivement avec Pfizer, qui a observé une diminution de 50% des contaminations chez les plus de 60 ans. C'est énorme. Qui fait penser que si ça n'annule pas le portage du virus, au moins ça diminuerait sa transmission. Et une diminution des hospitalisations de 30% en service conventionnel et 20% en réanimation. Et c'est ça l'objectif et c'est ça la lueur d'espoir qu'on a pour en finir avec ce virus.
Benjamin Davido, deux dernières questions. Le passeport vaccinal ou un certificat de vaccination pour voyager ou pour, assister à un concert ou entrer dans un stade. Vous y êtes favorable ou pas ?
Alors d'abord, moi, j'utiliserai le mot de passeport sanitaire. Ouais, et en fait, j'ai envie de vous montrer quelque chose, Monsieur Bourdin.
Ouais.
On retombe sur notre question de tout à l'heure. Il est là, votre passeport sanitaire.
Oui, bien sûr.
Un QR code chez des jeunes, qui sont ceux qui ont envie de reprendre leur vie d'avant, qui ont envie de sortir, qui ont le moins de risque de faire une forme sévère, et qui sont aussi, on oublie souvent de le dire lorsqu'on parle de vaccination, qui seront les derniers servis. Et il y a quelque chose de très cruel là-dedans.
Oui, c'est vrai. Je termine avec le Covid long. parce qu'on l'oublie un peu. Est-ce que le Covid long doit être reconnu comme une ALD, une affection de longue durée?
Alors vous me faites plaisir parce que le Covid long à Garches, on est l'une des premières équipes à l'avoir décrit.
C'est pour ça que je vous en parle.
On m'a déjà interrogé sur ce sujet. Moi, je pense que dans le mot ALD, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un gros mot parce qu'on rentre sur une maladie chronique sur laquelle il n'y a pas de fin. En revanche, qu'on sait en maladie infectieuse, il y a un exemple, par exemple la tuberculose, c'est une maladie qui est en ALD et qui est une ALD de durée écourtée puisqu'on va être soigné pendant 6 mois à 1 an. Et donc, en effet, on pourrait imaginer plaider pour une prise en charge de ces malades, à la fois pour la reconnaissance de la maladie, pour une durée déterminée. Je pense que ça serait une bonne chose et ça me fait penser qu'il faut rappeler aux jeunes que se faire contaminer, ce n'est pas rien et qu'on peut être jeune. Pas forcément faire une forme sévère.
Vous-même, vous avez été contaminé.
Absolument.
Et ça contaminé. A été sérieux.
Ça a été sérieux. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont jeunes et qui ont un Covid long. Et tout le paradoxe, c'est que ces gens qui ont un Covid long sont souvent des gens de moins de 40 ans, en bonne santé, plutôt sportifs. Et donc, on parle souvent que des décès et que des hospitalisations. Mais malheureusement, on peut aussi avoir des séquelles et avoir fait une forme bénigne.
Merci beaucoup, docteur Benjamin Davidot, d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV. Il est 8h54.